Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant? Alors, vous vous demandez peut-être où est l'orateur. C'est pas moi. Il n'est pas là. La chaire est là. La chaire est vide. Alors, les orateurs aujourd'hui, c'est vous, c'est nous, c'est moi. Aujourd'hui, on voulait vous proposer d'étudier un passage de la Bible ensemble sous la forme de ce qu'on appelle une étude rabbinique. Alors, une étude rabbinique, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une manière un peu structurée d'étudier un texte de la Bible. Alors, comment ça va se passer? Vous pouvez rester à vos places, il n'y a pas de souci. Vous allez vous mettre par deux, donc le plus simple, c'est que vous soyez avec votre voisin. Si vraiment vous voulez, vous pouvez vous mettre par trois, mais le plus simple, c'est quand même par deux. Et on va afficher un texte biblique, et on va aussi vous distribuer des feuilles où il y a le texte dessus. N'hésitez pas aussi à prendre vos Bibles, c'est encore mieux si vous avez des versions différentes, ça enrichit encore plus la discussion. Et puis ensuite, ça va se passer par étapes. Alors, la première étape, vous allez lire le texte pour vous-même. Jusque-là, tout va bien. Vous lisez le texte pour vous. Deuxième étape, vous allez lire le texte à votre partenaire. Votre partenaire va vous lire le texte. Jusque-là, ça va aussi. Ensuite, l'idée de l'étude rabbinique, c'est vraiment de pouvoir discuter autour de ce texte de manière ouverte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement. L'idée, c'est d'avancer ensemble en se posant des questions sur le texte. Alors, comment ça se passe concrètement? Une fois que vous avez lu, vous posez une question à votre partenaire qui vous a intrigué dans le texte. Et votre partenaire, lui, il vous répond brièvement sur la question, s'il a la réponse, peut-être il ne l'a pas, et il enchaîne en posant une autre question. Et l'idée, c'est que comme ça, en fait, vous allez avancer dans votre raisonnement. Donc moi, voilà, je pose une question, réponds, ah oui, je pense que c'est pour ça, mais moi, je me demande, peut-être que, et ainsi de suite, vous avancez dans la discussion. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes bloqué? Soit vous allez vous retrouver face à face, vous ne savez pas quoi dire, soit vous allez vous poser une question tellement compliquée que vous n'allez pas savoir répondre, ou soit vous êtes juste complètement bloqué. Eh bien, sur la scène, je vais avoir trois rabbins qui seront ici. Donc, je vais demander aux rabbins de venir s'avancer, déjà. Ils vont pouvoir s'asseoir sur la scène. Et donc, le rôle des rabbins, c'est ni plus ni moins d'essayer de répondre à des questions que vous pourriez avoir. Vous voyez, certains sont venus avec le matériel adéquat. Bravo Eric. Donc voilà, donc si jamais par exemple vous êtes posé une question, vous n'avez vraiment aucune réponse, vous venez voir un rabbin, vous lui posez la question, il essaiera avec toute sa sagesse de vous répondre, peut-être qu'il n'aura pas forcément toutes les réponses, mais après vous pouvez repartir dans votre groupe et poursuivre la discussion. De même, si vous lisez le texte et puis que rien ne se passe du tout, vous ne savez pas comment commencer, vous pouvez aussi venir voir les rabbins, ils seront ravis de peut-être voilà, vous donner une piste pour commencer votre réflexion. Très important, durant cette discussion, l'idée c'est qu'il va se dégager des choses du texte. Vous allez découvrir des choses qu'on appelle des perles, tout simplement. Notez ces perles. Vous vous posez des questions et d'un coup vous dites « Ah mais oui, mais en fait ce passage ça veut dire ça ». Prenez note de ces perles et à la fin de l'étude rabbinique, vous aurez l'occasion de partager avec tout le monde les éventuelles perles que vous aurez trouvées. Alors si on voit là le nombre qu'on est avec toutes les équipes qu'il va y avoir, vous imaginez tout ce qu'on va pouvoir retirer du texte. Alors voilà, je vous invite sans plus tarder à trouver un partenaire, deux si jamais, et puis on va passer dans les rangs pour vous distribuer le texte, et il va aussi être affiché dessus. Et puis dès que vous avez le texte, c'est parti, vous pouvez commencer à le lire pour vous-même, ensuite le lire à votre partenaire et commencer les questions. Autant d'effervescence. Je vais laisser le dernier rabbin finir son conseil. Voilà. Merci. Alors, Il y a eu beaucoup de, j'ai vu beaucoup de discussions. Je ne sais pas si c'était sur le texte, j'espère. Mais, alors voilà, maintenant qu'on a pu bien discuter et étudier ce texte en profondeur, je voudrais vous laisser quelques minutes pour prendre la parole courtement si il y en a parmi vous qui voilà, ont envie de partager avec, avec le reste de l'Assemblée des perles qu'ils auraient découvertes. Donc voilà, vous levez la main, je viens vers vous avec le micro.
Une petite chose, c'est que Dieu il me donne une clé en me disant, va dans ta chambre, va dans un lieu secret. Pour moi, c'est vraiment la clé, parce qu'il va se passer quelque chose.
Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre ?
Eh bien, moi, pour le besoin... Quand on est avec des gens, vraiment, il y a un besoin de prier. Moi, je prie n'importe où avec cette personne-là. Pas, je n'écris pas comme ça fort, mais n'importe où. Je partage.
Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre ?
Ce que j'ai trouvé merveilleux, moi, c'est qu'en fait, à vous-même de demander... à Dieu notre Père, eh ben, il savait déjà avant nos besoins en fait. Et puis je voulais juste dire une chose, c'est la première fois que je viens ici et en fait c'est parce que j'ai lu l'article hier dans la 24 heures et ça m'a touchée et je me suis dit, comme j'habite le quartier, je me suis dit je vais aller voir là-bas. Et voilà, c'est pour ça que je suis là.
Merci. Formidable. Bah, soyez la bienvenue alors, vraiment.
Nous, on s'est posé la question, est-ce que la prière intime annule la prière publique ? Voilà.
Vous avez pas de réponse, d'accord. C'est très bien. Formidable. Ah bah, si tu veux essayer de répondre, oui.
Bien entendu, Jésus a... ailleurs, donner des promesses. D'ailleurs, on l'a chanté tout à l'heure, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et à ce propos, il parle de demandes collectives, d'un groupe, d'une communauté. Donc, l'un n'exclut pas l'autre. Mais je pense que l'enseignement donné ici sur la prière solitaire se répercute aussi sur la prière collective. C'est-à-dire, quand nous sommes ensemble, qu'est-ce qu'il nous faut rechercher ? Pas faire des belles prières, pas avoir des émotions extraordinaires, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est rechercher l'intimité avec Dieu. Hein. C'est ça, c'est à ça que nous devons regarder. Et alors, j'irais en groupe, évitons de nous admirer les uns les autres, dire « Oh, celui-là, celle-là, mais c'est magnifique comme elle prie. » Quelle horreur, non. Ça n'a aucune importance. Hein. Il ne faut pas prier pour être admiré, que ce soit seul ou en groupe, il faut prier pour rechercher la communion la plus profonde possible avec son Père. Est-ce que c'est clair comme ça ?
Merci beaucoup, Jean. Peut-être encore une ou deux dernières perles ? Quelqu'un ?
Alors, je pense effectivement cette communion avec Dieu, c'est savoir que lui est le Tout-Puissant et que nous avons besoin de lui. Et partout, soit chez nous, dans l'intimité, soit dans une multitude de gens, on peut avoir cette intimité avec Dieu. Et savoir que lui, il peut se charger de nos problèmes, des problèmes des autres, parce qu'on s'occupe aussi de prier pour ces problèmes de ce monde sans se charger, parce que nous ne pouvons pas porter des fardeaux immenses. Mais Dieu, qui est le Tout-Puissant, il peut porter tous les fardeaux. Et cette intimité, cette communion avec Dieu, adoration aussi, C'est très important pour nous aider à vivre en paix avec Dieu et avec nous-mêmes.
Merci beaucoup. Marie.
rapidement, on s'est demandé ce que c'était que la chambre, le lieu secret. Et puis on a assez vite conclu que ça peut être des tas d'endroits différents parce que finalement c'est notre cœur. Et que l'important c'est de pouvoir se couper au monde extérieur un moment. Et dans notre cœur, parler à Dieu, pas forcément même demander des choses, mais juste entrer en dialogue, enfin, parler à Dieu et qu'il nous le rendra parce que quand nous voulons être avec lui, lui est avec nous. C'est nous qui nous rapprochons de lui et lui est là.
Merci beaucoup. Oula, il y en a partout. Alors je vais prendre encore deux perles, et puis après je laisserai juste la parole au rabbin.
On s'est dit que, en fait, Dieu, il n'a pas besoin de nos prières puisqu'il sait tout, mais que la prière a été inventée pour l'homme, pour entrer en dialogue avec Dieu, pour exprimer ses sentiments, ses émotions, ce qu'on vit, nos problèmes, etc. Je dois avouer qu'il n'a pas répondu à toutes mes prières, mais j'aime prier, j'aime être en dialogue avec mon Père.
Charlie, merci. Une de nos perles était la notion de libre arbitre. Parce que même si Dieu sait de quoi on a besoin, c'est à nous de lui demander et il ne nous l'imposera pas. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir partagé. Alors je me tourne vers les rabbins. Est-ce qu'un de vous a aussi quelque chose qu'il a pu trouver, une perle ou dans les questionnements qu'il a reçus, quelque chose d'intéressant qu'il voudrait partager ?
Moi, il me semblait que ce texte ouvrait la porte à une sérieuse étude sur la prière. Parce que tout d'un coup, on se heurte à la chose suivante, c'est que les belles prières bien faites n'ont pas beaucoup de valeur, elles sont creuses. Et puis les prières répétitives, où on dit toujours les mêmes choses pour obtenir quelque chose, n'ont pas non plus beaucoup de valeur. Or, en discutant avec plusieurs, on se rend compte que nous avons ce type de prière beaucoup dans nos milieux, où on a des prières répétitives. Je prie pour que mon voisin se convertisse, je prie pour... tous les jours, je prie pour ça, tous les jours, je prie pour des choses de ce type-là. Est-ce que ça fait partie des prières répétitives? Est-ce que je dois poursuivre sur cette voie? Je prie pour recevoir l'amour ou plus d'amour. Est-ce que je dois prier continuellement pour cela? Et je pense que ce serait intéressant d'aller un petit peu plus loin dans cette dynamique de recherche. La prière répétitive que nous faisons continuellement pour quelque chose, est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle correspond à ce que Jésus dit? Ça ne sert à rien de continuellement prier ces mêmes choses. Ou est-ce qu'il faudrait quand même avoir ces prières répétitives, mais en faire peut-être quelque chose? Et je donnais l'exemple à quelqu'un, je disais, mais dans ces prières répétitives, souvent nous demandons des choses pour nourrir notre vie chrétienne. Par exemple, je veux plus d'amour. Et si je répète cela et que je ne vois rien venir, eh bien peut-être que ça vaudrait la peine d'aller chercher de l'aide auprès d'un frère, d'une sœur, ou peut-être même après aller chercher de l'aide auprès d'une équipe de relations d'aide qui va peut-être m'aider à cheminer pour trouver pour quelle raison je ne réussis pas à suffisamment exprimer l'amour qu'il y a dans mon cœur. Donc, ces prières répétitives devraient peut-être nous amener à faire des démarches pour aller plus loin, pour obtenir enfin une réponse. Ça serait toute une étude à faire, hein, bien sûr, ce serait...
J'ajoute juste un élément que j'ai dit à quelques-uns d'entre vous. Si, pour ma part, je répète demain et après-demain une même demande à Dieu, c'est à cause de moi. C'est parce que moi, aujourd'hui, j'ai dit, je me décharge ce souci. Et je l'ai fait, sincèrement. Et le Seigneur m'a répondu, il m'a donné sa paix. Mais voilà, demain, je suis repris par ce même souci pour un proche, parce qu'il y a vraiment un problème. Alors, moi, j'ai besoin de nouveau... m'en décharger, mais je n'imagine pas que c'est à cause de ça que ma prière est plus valable. C'est pas parce que je la répète, pas du tout. Le fait que je la répète est plutôt un indice de mon manque de foi. Mais le Seigneur est plein de pitié et demain aussi, il va me décharger.
La suite de ce passage, c'est quand vous priez, dites, c'est pas marqué, mais c'est Jésus qui continue dans Matthieu 5, quand vous priez, dites, et après, il donne le remède à une prière magique, il donne le remède à une prière anxieuse. Le problème avec nos prières, c'est qu'elles sont centrées sur nos visions avant d'être centrées sur le royaume de Dieu. Et ce qui est intéressant dans la réponse de Jésus, c'est le Notre Père qui suit, c'est tu. C'est les trois premières demandes. Et après, il y a notre, c'est un collectif de besoins. Habituellement, les prières païennes, c'est juste l'inverse. C'est notre, et alors si ça va bien, tu. Vous saisissez ? Donc c'est intéressant que l'antidote est donné. C'est un vieux thème, déjà dans le livre des psaumes. C'est ce peuple m'honore des lèvres, c'est-à-dire il a la bonne confession de foi, il est dans la bonne église. Hein. Mais son cœur est éloigné de moi. Donc oui, c'est une histoire d'attitude de cœur devant Dieu, hein, la question de la prière. Donc je rejoins aussi ce que tu disais, le critère déterminant d'une vraie spiritualité, ce n'est pas la prière, et encore moins l'absence de prière, mais c'est l'amour. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on se trompe, hein. C'est vrai. Hein. Voilà les choses qui passent par l'esprit. Ne vous faites pas appeler rabbi, il y a marqué dans l'évangile. Alors, on s'arrête là hein, pour les rabbis.
Votre rôle de rabbin est officiellement terminé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, on va avoir la chance d'avoir encore un petit temps de louange. Ça nous permettra aussi de se remémorer tout ce qu'on a pu voir et vous aurez aussi l'occasion de mettre en pratique et de prier.